Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Trendstalk. Alors, de l'inflation à la guerre en Ukraine, en passant par les choix stratégiques de la Belgique, l'énergie est devenue un enjeu majeur, évidemment, en cette période. Alors, il y a aussi, en toile de fond, de la toile de fond, la transition énergétique et les objectifs que l'Europe s'est assignés pour une société décarbonée à l'horizon 2050. Ça fait beaucoup de choses. Pour en parler, on accueille aujourd'hui Grégoire Dallemagne, qui est CEO de Luminus, qui est un acteur important de cette question en Belgique. Pour commencer, alors on va peut-être un peu resituer le contexte très brièvement. Il y a eu un accord sur la prolongation du nucléaire qui a été acté en Belgique au mois de mars. Ça s'inscrit dans un cadre évidemment plus large dont on va parler. En marge de ça, il y avait aussi une procédure, un mécanisme qu'on appelait le CRM, qui est un mécanisme de subsidiation d'énergie qui vont accompagner le grand virage qui sera celui des énergies renouvelables, hein, du cap que l'on met de 100% de renouvelables en 2050. J'ai essayé de résumer le mieux que je pouvais. Et dans ce cadre-là, il y a une décision qui a été prise, qui est l'octroi à Luminus d'une des deux centrales au gaz octroyées dans le cadre de CRM, à Seraing en l'occurrence, qui remplace celle que Engie devait obtenir à Vilvoorde, qui n'a pas eu de permis. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour Luminus, pour commencer?
Merci tout d'abord pour votre invitation, Monsieur Mouton. Et oui, c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Vous savez, chez Luminus, nous avons investi près d'1 milliard d'euros ces 10 dernières années dans les énergies renouvelables. Et nous sommes d'ailleurs devenus numéro un en éolien onshore. Et nous exploitons également un certain nombre de centrales au gaz en Belgique. Et ce que nous avons observé en 2021, par exemple, c'est que nous avons dû démarrer, j'ai envie de dire, nos centrales au gaz 3 fois plus en 2021 qu'en 2019, 2 fois plus en 2021 par rapport à 2020. Et donc, ce qu'on observe, c'est que lorsque le renouvelable se développe, et on peut s'en réjouir, le besoin, en fait, de centrales au gaz augmente. En tout cas, le besoin de solutions de flexibilité pour prendre le relais lorsqu'il y a moins ou pas de soleil et de vent augmente. Et donc, nos centrales au gaz chez Luminus sont fortement sollicitées pour faire face d'une part à ce qu'on peut qualifier de l'intermittence des énergies renouvelables, mais d'autre part aussi pour assurer le relais en hiver. Et on l'a vu cet hiver de nouveau, il y a eu quelques semaines, comme chaque hiver, j'ai envie de dire, où il n'y a pas de soleil, pas ou très peu de vent. Et donc, à ce moment-là, les centrales à gaz sont également nécessaires pour faire face à la pointe de la consommation. Et ce sont des moments qui peuvent durer parfois plusieurs semaines en hiver.
Certains disent évidemment, le nucléaire peut remplir cette fonction-là.
Alors, tout d'abord, pour finir sur les centrales au gaz, parce que je vous expliquais qu'on est exploitant de centrales au gaz chez Luminus, mais nos centrales au gaz arrivent en fin de vie. Et donc aujourd'hui, avec 6 centrales nucléaires, 7 centrales nucléaires qui tournaient cet hiver, eh bien, nos centrales à gaz ont tourné 3 fois plus qu'en 2019, mais elles arrivent en fin de vie. Et donc oui, c'est une bonne nouvelle d'obtenir un contrat de rémunération de capacité pour en construire une nouvelle, parce que cela nous permettra de renouveler nos centrales à gaz existantes et de les renouveler, je dirais, avantageusement, vu que la nouvelle centrale aura un meilleur rendement et permettra immédiatement une réduction des émissions de CO2 par rapport aux centrales existantes qui sont, je le rappelle, fort sollicitées pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement et pour produire à chaque moment cette électricité dont nous avons tous un besoin vital.
Parce que on parle de gaz pour le moment. Alors évidemment, l'énergie est un dossier complexe, on fait pas mal d'amalgames. On parle quand même de deux choses pour le moment. Un, la guerre en Ukraine et la dépendance que l'on a vis-à-vis du gaz russe. Hein, ça, c'est un gros argument pour certains aujourd'hui de dire il faut qu'on arrête, en l'occurrence, de subventionner ou d'utiliser le gaz. Et l'autre élément, c'est évidemment la nécessité de décarboner à l'horizon 2050, on en reparlera. Et donc, un des arguments en Belgique, c'est de dire le nucléaire est une énergie décarbonée, pas le gaz. Est-ce que dans ces deux cas-là, ce n'est pas des arguments sur lesquels on se dit peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on change notre fusil d'épaule?
Alors, je voudrais peut-être repréciser quelques éléments par rapport au mix énergétique d'une part et au mix électrique d'autre part. Donc la neutralité carbone, c'est évidemment l'objectif et nous souhaitons, j'espère, tous l'atteindre le plus rapidement possible. C'est un enjeu, j'ai envie de dire, de survie de l'espèce humaine, de notre espèce. Et pour que notre planète reste habitable, pour nous les humains, nous devons impérativement réduire rapidement les émissions de CO2. Alors, d'ailleurs, la raison d'être de Luminus est de construire ensemble un avenir énergétique neutre en CO2, réconciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité, je vais vous expliquer pourquoi, et à des services d'efficacité énergétique.
Oui, un besoin massif d'électricité, de toute façon.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend les émissions de CO2, du coup, il faut qu'elles aillent vers zéro. Au niveau planétaire, c'est 50 milliards de tonnes d'équivalent d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises chaque année, on doit aller à zéro. Alors comment on fait ? Bon, d'où viennent d'abord ces émissions de CO2 ? En Belgique, elles viennent à 70% de la combustion d'énergie fossile. Donc ça, c'est, je dirais, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle de combustion d'énergie fossile, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de brûler de l'essence et du diesel dans votre voiture pour vous déplacer, de brûler du mazout, pire, dans une chaudière pour se chauffer, brûler du gaz dans une chaudière, brûler des produits pétroliers et du gaz pour faire tourner l'industrie. Et ça, donc la combustion directe d'énergie fossile pour l'industrie, pour se déplacer, pour se chauffer, c'est 80% de ce que la Belgique consomme d'énergie, du mix énergétique. La partie électricité du mix énergétique ne représente en Belgique que 18% du mix énergétique total. Et donc, quand on se pose ensuite la question « qu'est-ce qu'il faut faire pour décarboner ?», ben, la première chose à faire, c'est la sobriété. Et la sobriété, c'est consommer moins. Et depuis le début de la crise énergétique, nous avons fait des campagnes dans les médias pour expliquer à nos clients de tous les gestes qu'ils peuvent adopter pour réduire leur consommation d'énergie, donc sobriété. Et à côté de la sobriété, il faut, tout comme le patron de l'Agence internationale de l'énergie l'a dit hier, je pense, à Bruxelles…
Électrifier davantage.
Il faut électrifier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut électrifier pour deux raisons principales. La première raison, c'est que lorsqu'on électrifie un usage, par exemple la mobilité, un véhicule, on réduit fortement la consommation totale d'énergie grâce à l'efficacité énergétique d'un moteur électrique par rapport à un moteur à combustion, un moteur à essence. Et donc, un moteur électrique est 3 fois plus efficace sur le plan énergétique qu'un moteur à combustion. Si on prend le chauffage, si vous remplacez une chaudière à gaz, une chaudière au mazout par une pompe à chaleur, eh bien la pompe à chaleur est 4 fois plus efficace sur le plan énergétique en termes de rendement par rapport à une chaudière à gaz. Et donc électrifier les usages permet de réduire fortement la consommation totale d'énergie, permet d'arrêter de brûler directement des combustibles fossiles avec une rentabilité, un rendement très mauvais. Par contre, évidemment, ça va augmenter la consommation d'électricité. Donc on peut dire que l'électricité, on doit aller vers l'électricité parce que c'est un vecteur d'efficacité énergétique, première raison. Deuxième raison, l'électricité peut être produite à échelle industrielle en n'émettant pas ou peu de CO2. C'est le cas des électricités renouvelables, c'est le cas de l'électricité nucléaire, et en produisant relativement peu de CO2, c'est le cas de la production d'électricité à partir de gaz naturel. Certainement, si on le compare à la production d'électricité avec du charbon, ce qu'il faut bannir, parce que le charbon émet beaucoup trop de CO2.
Enfin, dans l'ordre, c'est quand même renouvelable, nucléaire, et gaz qui est quand même
le
moins…
Le nucléaire émet moins de CO2 que le renouvelable par mégawattheure, ouais. Donc plutôt nucléaire, existant en tout cas, renouvelable, gaz. Donc, et ensuite, le charbon émet 3 fois plus de CO2 que le gaz. Donc, en fait, s'il faut électrifier, parce que c'est un vecteur d'efficacité énergétique, que l'électricité peut être produite avec relativement peu d'émissions de CO2 comparées à l'alternative que j'ai expliquée, qui consiste à brûler de l'essence dans une voiture, eh bien… Mais je vais vous prendre un exemple. Même si vous produisez de l'électricité dans une centrale à gaz à haut rendement, pour alimenter un véhicule électrique, vous allez réduire la consommation énergétique de 60% par rapport à utiliser de l'essence ou du diesel dans un véhicule à combustion. Donc électrifier, même avec une centrale à gaz à haut rendement, permet de réduire les émissions de CO2. Bien entendu, vous les réduisez encore plus si l'électricité vient de sources d'énergie renouvelables ou de sources d'énergie nucléaire.
Donc vous avez
nucléaire.
Répondu à une partie de ma question, qui était la question du gaz en tant qu'énergie émettrice de CO2, hein, ce que certains critiquent. L'autre partie, alors, qui est notre dépendance par rapport à la Russie, dont on parle beaucoup pour le moment.
C'est un vrai
enjeu ou pas?
Oui, alors ce qu'il faut viser à faire, j'ai envie de dire, crise géopolitique, nous traversons une crise géopolitique.
Atroce humainement, d'une part.
Qui n'a de précédent que la Seconde Guerre mondiale, je crains. Une crise énergétique qui est également terrible pour les consommateurs qui voient leurs factures d'énergie augmenter, et une crise climatique que nous devons adresser d'urgence. Et j'ai envie de dire, ces trois crises, quand on commence à réfléchir aux solutions, c'est un peu le même combat. Et la solution par rapport à ces trois crises, c'est de réduire la consommation totale d'énergie fossile. Et pour cela, comme je l'ai expliqué, sobriété, mais aussi électrification. Mmh. Et donc, pour réduire la consommation totale de charbon, de pétrole, de gaz, il faut électrifier, ce qui nécessite dès lors de produire, oui, beaucoup plus d'électricité, mais qui permettra une réduction de la consommation énergétique totale très importante. Mais c'est la meilleure manière de s'affranchir.
Oui, ça, mais idéalement, une énergie électrique qui serait produite par du nucléaire et du renouvelable, si j'entends bien.
Alors, sur le plan du CO2, ce sont évidemment les sources d'électricité les plus vertueuses.
Et par rapport à la Russie dépendance.
Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et j'ai envie de dire, et en plus, aujourd'hui, notre mix électrique, où vous et moi, nous sommes habitués à ce que l'électricité fonctionne aussi le soir en hiver, lorsqu'il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent, eh bien, on voit à ce moment-là que pouvoir disposer de centrales à gaz est essentiel, non seulement pour faire face à la pointe de consommation en hiver, et le stockage d'électricité intersaisonnier aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que cela, d'une part. Et deuxièmement, on voit aussi que quand on augmente le renouvelable dans les réseaux électriques, vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, je crois, le gaz accompagne les énergies renouvelables parce qu'il permet de compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de plus, même avec le nucléaire qui fonctionne, on a besoin de davantage de démarrage des centrales à gaz pour compenser l'intermittence de sources d'énergie renouvelable croissantes que nous avons dans le réseau. Donc en fin de compte, pour conclure, je pense que, quelle que soit la crise que je viens d'évoquer, la solution, c'est consommer moins d'énergie au total. C'est donc également, au-delà de la sobriété, d'électrifier. Encore faut-il avoir assez d'électricité. Et si vous demandez à Elia, Elia explique, le gestionnaire de réseau de transport, dans son rapport de décarbonation, hein, net zéro en 2050, ils expliquent qu'en 2050, on aura besoin de 3 fois plus d'électricité qu'aujourd'hui. Donc la question devient, comment réduire sensiblement, drastiquement, la consommation totale d'énergie fossile tout en augmentant la production d'électricité, ce qui permet de réduire la demande totale d'énergie. Et pour cela, je crois que les sources de production d'électricité que sont le nucléaire, le gaz et tout le renouvelable qu'on pourra développer sont nos alliés. Les ennemis, c'est les combustibles fossiles qu'on brûle directement dans les chaudières et dans les véhicules, par exemple, pour se déplacer, ou alors le charbon qu'on brûle pour fabriquer de l'électricité.
Mais donc encore incise encore par rapport à cette crise russe, après on parlera de crise ukrainienne et de l'indépendance à l'égard de la Russie, après on parlera du renouvelable, mais on a beaucoup parlé de l'embargo, la difficulté que l'Europe avait de décider d'un embargo contre le pétrole, mais surtout contre le gaz. À la limite, le pétrole, ça se dessine un peu, le gaz, ça reste quand même la grande difficulté. Est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est possible? Et est-ce que justement, ça ne montre pas la difficulté de cette dépendance-là?
Alors moi, je pense qu'on doit saisir, c'est évidemment trois crises qui sont plus horribles et plus difficiles les unes que les autres, surtout humainement la crise en Ukraine. Nous devons saisir ces crises pour réduire drastiquement notre consommation d'énergie. C'est ça la solution. Donc, ceci étant dit, cela suppose des changements de comportement, cela suppose des investissements massifs, cela suppose des transformations des véhicules classiques thermiques vers les véhicules électriques, des chaudières au mazout vers les pompes à chaleur. Et donc, autant d'activités que chez Luminus, nous essayons de contribuer à la hauteur de nos moyens, à bras-le-corps, à cette électrification, à ces efforts d'efficacité
énergétique. – Mais tout ça, on parle dans un terme qui est un peu distant, enfin je veux dire…
– Il faut mettre tout cela en œuvre.
Enfin...
– Alors ça, à ce moment-là, effectivement, quand on regarde la dépendance de l'Europe aux combustibles fossiles aujourd'hui, probablement que si on devait faire un embargo, si j'ai bien lu, sur 40% de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, cela supposerait probablement, à brève échéance, d'arrêter des activités industrielles.
Pour vous aussi, par exemple ?
Alors, je crois que dans les questions, dans les plans dont j'ai pu prendre connaissance, il est question, dans certains pays d'Europe, d'arrêter des activités industrielles. Donc ce sont quand même des renoncements qui sont extrêmement importants et qui vont avoir des impacts très très sérieux dans les chaînes d'approvisionnement et dans le fonctionnement de notre économie.
Mmh. On l'a dit, donc la clé évidemment dans ce mix énergétique est certainement à l'horizon 2030 et puis 2050, ce sont les énergies renouvelables. Alors il y en a différentes natures, l'objectif étant d'arriver à 100%, en tout cas c'est l'objectif affiché, d'abord est-ce qu'il est tenable, et ensuite quelle est la feuille de route qu'un industriel peut avoir par rapport à ça? Et est-ce que sur ce chemin-là, il n'y a pas des difficultés? On a, par exemple, certains parlent du NIMBY, hein, la difficulté d'installer des éoliennes, des champs photovoltaïques, d'avoir, je ne parle pas de l'éolien offshore évidemment, mais de manière plus générale, est-ce que ça c'est une vraie difficulté? Est-ce que ce cap, il est tenable pour un industriel comme le vôtre?
Alors, je pense que le gouvernement fédéral en Belgique a déjà mis en place un certain nombre de mesures qui vont dans la bonne direction. Donc, je dirais prolonger un certain nombre de centrales nucléaires, mettre en place un mécanisme de rémunération de la capacité pour permettre des investissements dans des nouvelles capacités de production qui remplacent d'ailleurs d'autres qui arrivent en fin de vie, favoriser l'essor de l'éolien offshore. Tout cela va dans la bonne direction. Ensuite, je pense qu'il faut encore peut-être mettre en place des efforts coordonnés pour permettre également un développement soutenu des énergies renouvelables comme l'éolien terrestre et le photovoltaïque, par exemple, parce qu'aujourd'hui, nous, en tout cas chez Luminus, on est développeur de renouvelables, d'éolien onshore, entre autres, mais dans ce domaine-là, on est leader de marché. Pour vous donner une idée, environ depuis 5 ans, 4 éoliennes sur 10 qui sont développées en Wallonie sont développées par Luminus. Mais ce que nous avons développé ces dernières années, c'est le fruit d'efforts investis depuis une dizaine d'années. Et donc même si en 2020-2021, on a encore bien construit, je m'inquiète pour les 2-3 années qui viennent parce que notre pipeline s'assèche. Donc cela devient plus difficile aujourd'hui de développer…
– D'obtenir des permis…
– Ça devient plus difficile d'obtenir des permis aujourd'hui. Et donc c'est important, je crois, que tous les niveaux de pouvoir puissent se concerter pour définir ensemble des objectifs atteignables, parce qu'il faut derrière ces objectifs aussi des mesures qui sont cohérentes, par exemple un cadre de soutien prévisible, stable, pour ces sources d'énergie renouvelable, de manière à pouvoir les développer de manière harmonieuse et dans les quantités qui sont nécessaires. Donc si on parle de s'affranchir des énergies fossiles, il faut développer plus de sources d'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que notre ressenti d'industriel, c'est qu'on en développe plutôt moins. En tout cas, en ce qui concerne l'éolien onshore.
Et parce que les gens ne veulent pas, c'est ça?
Alors, il y a.
Enfin, quand je dis les gens, les riverains.
Vous avez parlé du nimbisme, oui. qui est un élément. Deuxièmement, les procédures sont quand même particulièrement lourdes. J'ai fait un recensement et je crois que près de 500 mégawatts d'éolien terrestre sont bloqués au Conseil d'État. Donc, je pense qu'il serait utile qu'on s'interroge sur les procédures de développement et qu'on puisse prioriser aussi, je dirais, les différentes mesures et le cadre qui est mis en place de manière à permettre le développement qui est souhaité, semble-t-il, pour le renouvelable, de manière à participer à cette réduction de consommation des énergies fossiles, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut consommer moins d'énergie fossile, il faudra plus d'autres choses, et donc il faudra permettre de développer plus d'énergies renouvelables, par exemple.
– Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique derrière les slogans ? Faut le dire, parce que parfois, c'est ça aussi. Je parle à tous les niveaux.
– Oui, hein, en fin de compte, nous…
– On parle de tous les niveaux de pouvoir. Parfois, certains disent, même au niveau local, ok, c'est compliqué quand il y a…
– Ce qui pourrait aider, c'est peut-être une meilleure concertation entre les différents niveaux de pouvoir, de manière à ce que la volonté, je pense, qui est sincère, puisse se transformer dans des actes et dans un cadre qui nous permet de transformer l'essai en éolienne qui tourne. Moi, en tant qu'industriel, je me réjouis lorsque j'inaugure un nouveau parc, mais je sais que les parcs qu'on a inaugurés ces dernières années, c'est le résultat d'efforts et investis souvent il y a trop longtemps. Et comme aujourd'hui, on voit notre pipeline s'assécher, le risque, c'est que dans les prochaines années, on ne développe pas plus, mais moins d'éolien terrestre. Et donc, nous sommes évidemment toujours volontaires pour travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions pour non pas développer moins, mais plus, parce que je crois que la situation l'exige.
Quand on parle de l'énergie pour le moment, effectivement, on parle beaucoup de l'inflation, de l'impact qu'elle a sur l'inflation, hein, directement et indirectement. Oui. Ça veut dire que c'est un poids quand même important pour l'économie. Je parlais avec des patrons d'entreprise cette semaine qui me disaient, mais comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour supporter des coûts qui augmentent sans doute de 20-25% d'ici la fin de l'année? C'est intenable, en fait. Alors, j'entends le discours qui consiste à dire, ben, il faut consommer moins, il faut préparer cette transition, l'accélérer, et c'est sans doute une opportunité. Ben, en attendant, sur le moment, c'est quand même une réelle difficulté. Comment, qu'est-ce que vous dites à des clients, j'imagine que vous en avez, qui sont dans ces difficultés-là?
Mais premièrement, j'étais encore auprès de nos équipes qui sont en contact avec nos clients en première ligne ou en deuxième ligne, les experts qui sont au service de nos clients en direct chez Luminus. Et bon, première chose que je voudrais vous dire, c'est témoigner toute ma compréhension vis-à-vis des clients qui font face à cette situation difficile, réellement difficile, des factures qui augmentent. Et donc, nous essayons, dans la mesure du possible, d'être à l'écoute, de proposer des solutions adaptées, comme par exemple des plans de paiement pour des clients, nos clients qui éprouvent des difficultés. Première chose. Deuxième chose, malheureusement, je suis au regret de dire que ces prix élevés et cette hausse subite des prix de l'énergie est un problème pour les consommateurs, mais c'est aussi un problème pour les fournisseurs.
D'énergie. Vous enrichissez pas, quoi. Certains disent qu'il y a des opérateurs qui s'enrichissent.
Bien au contraire, et certainement l'année 2021 nous a mis particulièrement sous pression, parce que, je dirais, cette hausse subite des prix du gaz et de l'électricité sur les marchés de gros, nous n'avons pas pu répercuter l'augmentation de nos coûts qui en découlent sur les contrats existants. Et donc, les fournisseurs d'énergie sont très fortement sous pression. Et nous en avons vu certains en Belgique qui ont eu des difficultés avérées très sérieuses, avec plusieurs faillites. Dans d'autres pays, on observe également de nombreuses faillites de fournisseurs d'énergie. Donc, bien au contraire, c'est très difficile pour les clients. Et d'abord, toute ma compréhension va pour eux et nous essayons de résoudre les problèmes lorsqu'on le peut. Mais je peux vous assurer que cette situation est également difficile et fragilise les fournisseurs d'énergie que nous sommes.
Il y a Kenji qui s'en sort bien, quoi, en Belgique, où je caricature.
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Peut-être que ceux, je dirais, qui disposent de ressources naturelles comme le gaz, qui sont, on va dire, producteurs et exportateurs de gaz, ben, si le prix augmente à un moment donné, je crois qu'ils peuvent effectivement…
Ou ceux qui disposent d'un matériel amorti, par exemple.
Alors, je suis mal placé pour me prononcer là-dessus, mais par contre, le point des fournisseurs est très sérieux. Et certains coûts que nous expérimentons, en fait, nous ne pouvons pas les répercuter sur les contrats existants, c'est normal d'ailleurs. Mais ça signifie aussi que nous avons été très fortement sous pression et nous le sommes encore pour tous les contrats qui ont été conclus avant la très très forte hausse des prix avant, je dirais, ces dernières semaines, ces derniers mois.
Est-ce que vous dites, dans ce contexte-là, c'est un accélérateur, on vit quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais finalement ça va nous contraindre à accélérer la transition énergétique, à faire en sorte que l'Europe réfléchisse à son autonomie énergétique. Est-ce que tout ça est finalement bienvenu, même si ça se fait dans un contexte un peu difficile? Et par ailleurs, est-ce que on se retrouve dans cette perspective favorable pour en sortir ?
Alors, on ne se réjouit jamais d'une crise. Et c'est la dernière chose que je ferai parce que je comprends réellement pour les écouter, parfois à côté de nos équipes, encore une fois nos clients qui font face à cette hausse de prix. La crise climatique est très sérieuse, la crise géopolitique l'est tout autant. Donc on ne se réjouit pas de cette situation. Par contre, c'est notre responsabilité d'utiliser ce momentum pour accélérer la transition vers une société décarbonée. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour gérer le climat. Nous en avons besoin pour réduire les factures d'énergie et nous en avons besoin pour être moins dépendants de situations géopolitiques particulièrement difficiles. Donc, utilisons ce momentum pour accélérer cette transition vers un monde décarboné, vers un monde, qui n'émet plus de CO2, auquel, je crois, nous aspirons tous. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Et je pense que nos clients l'ont compris. Donc les mesures immédiates à adopter, c'était réduire la température de chauffage pendant l'hiver. Nous avons fait des campagnes pour encourager nos clients à le faire. Et ensuite, lorsqu'on a un petit peu plus de temps pour planifier les choses, aujourd'hui, on le voit, investir dans des panneaux solaires pour produire sa propre électricité, au niveau d'une entreprise, investir dans une éolienne, si le site industriel le permet, sont autant de gestes qui permettent d'autoproduire l'électricité dont on a besoin et de s'affranchir de sources d'énergie carbonées qui sont sujettes à tous les maux que nous venons d'évoquer. Donc cette transition est souhaitable et je crois que c'est notre responsabilité d'accélérer le mouvement et c'est ce qu'on observe chez nos clients. Les demandes augmentent très très fort dans tous ces domaines-là.
Je me fais l'avocat du diable, mais on voit par ailleurs qu'il y a un accord qui est conclu avec les États-Unis pour du gaz liquéfié. On voit qu'il y a quand même une crise sur le marché des matières premières qui met sous pression aussi certains domaines, y compris certains domaines de renouvelables potentiellement. Est-ce que c'est pas un moment qui est plus délicat qu'on ne le pense, avec la volonté est là de dire on peut avancer à marche forcée vers cette société décarbonée, mais qu'en fait on est dans un moment plus chaotique qu'il n'y paraît, quoi.
Alors, on a, je pense, une fragilité, c'est une dépendance réelle aux énergies fossiles, aujourd'hui, il faut oser le dire.
Oui, qui reste bien présente. Il y a des pays où on subsidie la consommation de carburant, parce que les gens doivent aller au travail, je caricature, mais à peine.
Donc, on doit absolument utiliser cette situation particulièrement douloureuse que nous traversons pour nous transformer. C'est la seule issue. Donc réduire la consommation totale d'énergie, électrifier, autoproduire ce qu'on peut comme énergie renouvelable, partout on en a les moyens, ce sont des éléments de solution. Électrifier, et donc produire demain 3 fois plus d'électricité avec un mix électrique optimisé, approprié pour produire cette quantité d'électricité en minimisant les émissions de CO2, tout en assurant qu'elle soit disponible au bon moment, acceptable sociétalement. Donc c'est ça les enjeux stratégiques et la transformation dans laquelle nous nous inscrivons. Et nous, en tant qu'industriels, nous nous inscrivons dans cet élan-là. Nous redoublons nos efforts pour aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie, que ce soit les clients particuliers, les clients entreprises, les clients plus collectivités, les gouvernements. Je pense notamment à des grands projets de réduction de la consommation, des contrats de performance énergétique que nous déployons auprès de certaines villes, notamment. Et donc, autant d'efforts qui sont au cœur de notre raison d'être par rapport aux moyens que nous contrôlons.
Et dernière chose, vous avez une centrale au gaz, enfin plusieurs, mais une qui vient de vous être octroyée. Le renouvelable, vous l'avez dit, vous êtes numéro un onshore et présent largement sur le renouvelable qui est votre cœur business. Si je ne m'abuse, le nucléaire pourrait être aussi une facette de votre activité, non ? En France, c'est le cas de
EDF. Alors, en Belgique, c'est Engie, qui est l'exploitant nucléaire et d'ailleurs qui négocie avec le gouvernement pour la prolongation des centrales nucléaires.
Il n'y a pas d'appel du pied chez vous pour le moment, quoi.
Moi, je ne suis pas au courant. Pour autant que je sache, le gouvernement discute avec Engie et nous n'avons pas eu d'autres contacts. Par contre, le groupe EDF, dont Luminus fait partie, effectivement le premier producteur d'énergie nucléaire au monde. Et EDF développe aussi du nouveau nucléaire dans un certain nombre de pays qui souhaitent s'orienter dans cette direction-là.
Donc vous pourriez éventuellement être intéressé si le contexte était favorable.
Aujourd'hui, objectivement, encore une fois, en ce qui concerne la prolongation des centrales existantes, c'est une discussion qui a lieu d'avoir entre l'exploitant nucléaire, c'est-à-dire Engie, et le gouvernement belge.
Grégoire Dallagne, merci beaucoup, CEO de Luminus, acteur important de cette transition énergétique dont on perçoit qu'elle est vitale, qu'elle pourrait s'accélérer et qu'elle sera quand même un peu compliquée à mener aussi. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Trendstalk. Merci à vous.